dans lequel nous vivons, nous pouvons le transformer en quelque chose de merveilleux, en quelque chose de beau, parce qu'il nous a été promis par Dieu, par ses prophètes, et que c'est quelque chose de réel. Et c'est vers cela que nous devons tendre.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Après le nom de Dieu et la paix, la miséricorde, les prières sur le messager de Dieu, sa famille ainsi que sur l'ensemble des prophètes, louange à Dieu, Seigneur des mondes, et je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé. Et je reviens vers vous, mes chers frères et sœurs, après la dernière analyse où nous avions développé différentes choses, dont Al-Mukhlasin, dont ces fameuses personnes que nous avons définies d'une certaine manière, et que je vais rappeler pour vous et pour moi l'essentiel de ce sujet. Et ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, mes frères et sœurs, c'est que tout ce défi qui a été initié dans la Genèse avec Iblis et l'histoire des anges, de l'homme, et que, etc., que vous connaissez, Iblis avait fait une fameuse déclaration qu'il avait dit qu'il détournerait tous les hommes, sauf une partie d'entre eux. Je le dis comme ça. Et cette partie d'entre eux, c'est ce que l'on nomme Al-Mukhlasin. Et donc nous nous sommes interrogés la semaine dernière dans notre analyse afin de déterminer mais qui sont ces fameuses personnes Al-Mukhlasin. Alors sans nul doute, les prophètes, les héritiers des prophètes sont Al-Mukhlasin, ils font partie de Al-Mukhlasin. J'avais cité un verset du Coran à cette occasion qui concernait le Joseph alayhi salam. Et nous avons poussé la réflexion en nous demandant, mais qui sont-ils encore? Qui a-t-il encore parmi les Mukhlasin dont Dieu veut parler et dont Iblis dit qu'il ne pourra pas les détourner? Et à la lumière de ce que nous avons établi comme comme preuve scientifique, coranique, hadith, nous avons bien montré et mis en évidence que ces personnes, quand il en a parlé, Iblis, il parle par rapport à son défi et à son projet et au résultat auquel il veut aboutir. Donc tout ceci en réalité, pour faire simple, a un rapport avec l'aboutissement concret du projet d'Iblis et donc de la fin des temps. Puisque, je vous le rappelle encore une fois, Iblis a demandé un temps, ce temps que nous vivons sur cette terre, depuis le premier homme, Adam, alayhi salam, et Ève, alayhi salam, et ce temps qui perdure jusqu'à aujourd'hui, et que Iblis a besoin de tout ce temps pour mener à bien son projet. Hein, il faut bien t'entendre, mes frères et sœurs, je l'ai dit la dernière fois, mais je le réitère encore une fois, il faut bien entendre qu'il ne faut pas simplement penser que Iblis est là pour nous faire faire des péchés. Ça, c'est une forme apparente c'est un outil que Iblis utilise, mais c'est pas là où il veut mener l'homme. Lui, son but, c'est de détourner l'homme. Et pour détourner l'homme, il a besoin de tout ce temps que Dieu lui a accordé pour le mener à bien. Donc, ce qui nous mène à la fin des temps. Et ce qui nous mène à cette histoire d'Al-Mukhlasin est que nous avons bien mis en évidence que Al-Mukhlasin, ce sont des gens qui apparaissent à la fin des temps en particulier parce que ce sont eux qui vont répondre au défi d'Iblis parce que ce sont eux qui ne tombent pas dans le piège d'Iblis. Je pense que avec la permission de Dieu, je pense que c'est clair pour vous. Donc, Al-Mukhlasin, mes frères et mes sœurs, ce sont des personnes qui apparaissent à la fin des temps et qui relèvent le défi. Ces personnes, bien sûr, elles seront douées de quelque chose de particulier. Et c'est pour cette raison-là que je vais revenir avec vous. Je vais vous citer un récit, mais tout d'abord, je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, que nous avions aussi, nous en avions parlé aussi, il me semble, dans la dernière analyse, que il y a une catégorie de personnes, selon un certain hadith, où là, on ne nomme pas Al-Mukhlasin, mais on dit que ce sont des gens qui ne sont pas connus, ou que ce sont des gens qui apparaîtront à la fin, plutôt, et que ces gens seront doués d'une chose, c'est qu'ils maîtriseront les sciences du début et les sciences de la fin. Alors, bien sûr, nous l'avions déjà vu ensemble, ces sciences du début et ces sciences de la fin, ce sont bien sûr les sciences de la Genèse et les sciences eschatologiques, et donc de la fin des temps. Donc, ils ont une maîtrise parfaite de toutes ces sciences. Et qu'est-ce que l'on entend par là? Ce sont des gens qui ont très bien compris le but de la création de l'homme et le but du défi d'Iblis. C'est-à-dire, ils ont compris le début de la création et ils comprennent la fin de la création. C'est-à-dire, ils comprennent tout le dénouement et tout le cheminement de tout ce qui doit se passer entre le début et la fin. Et que ces gens-là, eh bien, ils auront des aptitudes particulières parce qu'ils seront capables de comprendre le Coran à leur époque et surtout de relever le défi qui avait été initié à l'époque avec les prophètes et les héritiers, parce que vous savez, le prophète, le messager de Dieu, et les héritiers, nos imams, ont parlé de tout ça, mais nous l'avons compris d'une certaine manière. Ils nous parlaient souvent du sens caché, du sens ésotérique du livre de Dieu, de la profondeur qu'il y a dans le Coran, des secrets qui se cachaient dans le Coran, de ce qu'il y avait qui n'apparaissait pas dans le Coran. Et en fait, nous l'avons détaché du temps dans le sens où, lorsque nous comprenions que chacun pouvait, à la lumière de sa foi, de sa spiritualité et des efforts qu'il faisait, eh bien, découvrir des choses qui n'apparaissent pas apparemment dans le livre de Dieu. Mais mes frères et mes sœurs, ça va beaucoup plus loin que cela. En fait, ce qu'ils nous expliquaient déjà à cette époque, nos imams et le messager de Dieu, c'est que le Coran, il prend une forme à chaque époque et selon les événements que nous vivons et la terre sur laquelle nous sommes. Et faire partie de ces gens-là qui maîtrisent tout, du début à la fin, c'est une particularité parce que ces gens-là comprennent, en fonction des événements qui se passent dans le monde dans lequel ils vivent, ils savent où se cachent ces événements dans le Coran et ils comprennent où Dieu en a parlé dans le Coran. J'espère que je suis clair, mes frères et mes sœurs. Vous savez, ce n'est pas évident lorsque vous lisez le Coran, de le ramener. Bon, le ramener, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on va l'employer comme ça pour que vous puissiez comprendre là où on veut en venir. De le ramener à notre histoire personnelle, à notre histoire à nous, donc personnelle, et l'histoire du temps dans lequel nous vivons. Ce n'est pas évident de le ramener à ce moment-là, parce que nous le comprenons extérieurement et nous essayons de ramener cet extérieur à l'époque que nous vivons. Alors qu'en réalité, nous avons besoin de quelque chose, d'une méthode qui nous permet, alors bien sûr cette méthode elle nous est enseignée par les prophètes, les héritiers, mais vous verrez, je vous parlerai aussi d'autres choses, et par ces gens-là, Al-Mukhlasin, qui nous entourent peut-être, qui sont autour de nous, qui sont peut-être pas loin de nous, et qui nous permettent eh bien de comprendre les événements que nous vivons aujourd'hui, de comprendre quel est le problème, et de comprendre quelle est la solution, parce que c'est le Coran lui-même qui évoque le problème et qui donne la solution à ce problème. Eh bien, ces gens-là, Al-Mukhlasin, ou ces gens-là qui apparaissent à la fin des temps, qui ont la maîtrise des sciences de la fin et les sciences du début, ils sont capables de montrer avec une évidence extraordinaire que tel événement, il est cité à tel endroit dans le Coran. Et que pour remédier à ce problème, il faut avoir telle attitude. J'espère, mes frères et mes sœurs, que j'ai été un petit peu plus clair. Je l'ai formulé un peu de manière différente pour vous, afin que vous puissiez un peu comprendre tous les enjeux. Alors, je vous avais promis un hadith que je vais vous dire. Il est un petit peu long, mais je vais vous demander, enfin un petit peu long, il ne fait pas quelques phrases, quoi. C'est un bon petit paragraphe que je vais vous citer. C'est l'imam Ali, alayhi salam, qui parle. Mais vous allez voir, c'est important de le citer parce que, bien sûr, dans ce hadith, l'imam Ali nous parle des temps eschatologiques et il nous parle du futur. Vous allez voir que c'est extraordinaire ce que l'imam Ali, alayhi salam, a pu nous dire. La longueur d'avance qu'ils avaient et là où ils voulaient en venir et que nous n'avons pas encore bien saisi ou nous n'avons pas encore bien compris. Mais qu'aujourd'hui, à travers les événements qui se passent dans notre monde, les initiés, ceux qui recherchent, ceux qui ont des aptitudes pour la spiritualité et qui sont sincères dans leur foi, eh bien cela leur apparaît. L'imam Ali, alayhi salam, parlant des prodiges de l'imam al-Mahdi. Donc l'imam al-Mahdi, fils de Fatima, alayhi salam, vous savez que c'est le 12e héritier de la maison de la prophétie qui doit réapparaître à la fin des temps. Alors bien sûr, qui est occulté, c'est-à-dire il est né il y a plus de 1200 ans, et puis enfant, il a disparu des yeux des hommes. Hein, je le dis ainsi. Alors nos savants, les grands, parlent d'occultation, de petite occultation, de grande occultation. Mais bon, je ne rentre pas dans ces détails-là. Le fait est que l'imam, il est vivant, il existe, mais il n'apparaît pas aux yeux des hommes et qu'il doit réapparaître aux yeux de tous à la fin des temps aux côtés de Jésus, fils de Marie, alayhi salam. Donc l'imam Ali est en train de nous parler de cet imam, 12e héritier, donc il est l'un de ses descendants, 12e héritier de la maison de la prophétie. Donc il est en train de nous parler de la fin des temps. Donc parlons des prodiges de l'imam al-Mahdi dans la sourate La Caverne. C'est pour ça que la sourate La Caverne est très, 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 très importante. Tout le Coran est important, mais la sourate La Caverne, elle est importante pour comprendre tous les enjeux de la fin des temps. Bien que le Coran, en lui-même, tout le Coran parle de la fin des temps. Mais la sourate La Caverne, il y a une clé dans la sourate La Caverne qui est importante parce que c'est celle qui permet de décoder tout et de comprendre. Donc, je me réitère, hein, l'imam Ali, parlant des prodiges de l'imam al-Mahdi dans la sourate La Caverne, aurait dit « Al-Mahdi, alayhi salam, a un signe grandiose et des réalités évidentes dans la sourate La Caverne. » Et son étendard se parachève dans l'unité, dans le fait de serrer les rangs. Al-Mahdi a conscience de son essence, c'est-à-dire du but et de tout ce qui est du début à la fin. Dieu ne charge point une âme plus qu'elle ne peut supporter, ça c'est un verset du Coran. C'est le hadith que je suis en train de citer. Dieu élargira pour lui les capacités de son âme de sorte qu'il puisse comprendre ce qui est caché et rectifier ou réformer des erreurs énormes et de grandes fautes dans lesquelles les gens sont tombés. Donc, capacité extraordinaire de l'imam, qui représente bien sûr l'un des mukhlassin, c'est pour ça qu'on avait évoqué ce sujet la semaine dernière, et qui donc a une maîtrise et une connaissance de ce qui est caché. Mais quand nous disons caché, c'est-à-dire une maîtrise de comprendre les événements de l'époque dans laquelle nous vivons. Je continue. Et donc, lesquels ce sont donc de grandes fautes dans lesquelles les gens sont tombés et s'y sont enracinées tellement qu'elles sont devenues des us et des habitudes. C'est ça qui est terrible, mes frères et mes sœurs, c'est que nous sommes dans l'erreur, nous cultivons ces erreurs et nous les prenons pour acquises parce qu'elles sont devenues des habitudes chez nous. Et là, le rôle de l'imam et des mukhlassin, bien sûr, c'est de pointer du doigt ces choses pour que les gens reprennent conscience que ce sont des erreurs et qu'ils doivent revenir à l'essentiel. Il les affrontera alors et ils le blâmeront. C'est-à-dire, ces gens le blâmeront. Il les affrontera, leur dira, il pointera du doigt ses erreurs, mais les gens l'affronteront, une partie des gens. À tel point que s'il n'y avait pas l'épée de Dieu avec lui, il aurait fait couler son sang alors qu'il est l'intime de Dieu. C'est-à-dire, son combat n'est pas un combat d'épée, n'est pas un combat guerrier. C'est un combat spirituel. Dans la caverne réside le secret des chevaliers, le signe de Jésus, Isa et les Salem, et le signe de Moïse. Là, il nous parle de la sourate la caverne, donc le lien de la sourate la caverne avec l'eschatologie. Dans la grotte de la montagne inconnue, ou la caverne plutôt, de la montagne inconnue, refuge des dormeurs, Ashab al-Kahf, les gens de la caverne, le temple jusqu'au retour à la maison sacrée, le serviteur qui attend aura un statut élevé. Donc, évocation de l'histoire des gens de la caverne et leur statut. Ah, si vous saviez qui est Dhul-Qarnayn. Et là, l'imam Ali alayhi salam nous parle de Dhul-Qarnayn, il nous interpelle et il pousse une interjection d'étonnement. Ah, si vous connaissez Dhul-Qarnayn. Dhul-Qarnayn qui est évoqué où, mes frères et mes sœurs? Dans la sourate la caverne. Dhul-Qarnayn qui est un personnage que nous avons nous souvent évoqué, mais qui est méconnu en réalité. L'histoire, les hadiths, etc., si ce n'est ces hadiths, n'en parlent pas, nous ne savons pas qui est. C'est beaucoup l'ont identifié comme quelqu'un qui était venu dans le passé. Alors que nous avons démontré, bien sûr, avec le Coran lui-même, bien sûr avec des hadiths aussi, que ce personnage ne pouvait pas être venu dans le passé, parce que lorsqu'on parle de ce personnage dans le Coran, on évoque Gog et Magog. Et Gog et Magog, c'est un événement qui se passe à la fin des temps. Ça, c'est qu'un signe hein, parmi tant de signes qui démontrent que Dhul-Qarnayn apparaît à la fin des temps. Et ce hadith où l'imam est en train de parler de la fin des temps, et il nous parle de la sourate de la caverne, et là il nous dit, ah si vous saviez qui est Dhul-Qarnayn. Donc Dhul-Qarnayn est un personnage que nous allons découvrir, que nous allons reconnaître, que nous devons reconnaître aujourd'hui. Et que son histoire qui est évoquée dans le Coran avec le peuple qui ne connaît presque aucun langage, c'est aujourd'hui cette histoire qu'elle se passe. Donc je continue. Ainsi vous saviez qui est Dhul-Qarnayn. Antioche de Syrie, près du fleuve, recèle un grand secret. Donc là, il parle d'une terre, d'un endroit. Shem sera grandement éprouvé, aidé par les Turcs, la Russie entrera dans la région. Il fait des prédictions, si je puis dire, de ce qui se passera pendant ces temps-là, c'est-à-dire il est en train de donner les signes qui nous permettront de reconnaître cette époque-là. Dieu accordera à Al-Mahdi une victoire telle que les Russes se soumettront à Dieu sans armes, ni soldats, ni armées ne s'opposeront à lui hormis celle des démons de l'Occident et la sédition du Dajjal sera un complot contre lui. Donc, cela veut dire textuellement que il y a des personnes, il y a des gens qui s'opposeront à lui et qu'ils appartiendront à une certaine catégorie d'hommes, comme dans tous les temps cela est arrivé. Ensuite, sa victoire étonnera tous les peuples. Ah, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Après que le décret soit connu, nul étendard chiffré portant le nom sublime de Dieu ne sera vaincu pour lui. Dieu réunira pour lui Ar-Raqm et Ar-Raqim. Ar-Raqm, ça veut dire le nombre. Ar-Raqim, c'est ce fameux mot qui est évoqué dans la sourate, la caverne, où on dit Ashab al-Kahf, c'est-à-dire les compagnons, les gens de la caverne et de Raqim, qui est une énigme que nous avons déjà, dont nous avons déjà parlé. Sa victoire étonnera tous les peuples du monde. Des événements extraordinaires auront lieu qui étonneront les peuples. On peut le dire ainsi. Si vous m'interrogez, écoutez bien ça, hein, si vous m'interrogez, la caverne est un océan sans limite. L'eau de l'océan tarit et la science de la caverne ne tarit pas d'un iota. Alors mes frères et mes sœurs, après ce hadith extraordinaire du premier héritier de la maison de la prophétie, l'imam Ali, gendre et cousin du messager de Dieu, mari de Fatima Tuz-Zahra, alayhi salam, qui évoque en ce temps, au temps où il a vécu, cette fin des temps, et qui nous plonge dans l'énigme de cette fin des temps et les mystères de cette fin des temps, et que la clé et les mystères sont à découvrir à travers la sourate La Caverne et toutes ces histoires qui sont contées dans l'histoire des gens de la caverne. Vous savez, mes frères et mes sœurs, je reviens à quelque chose qui est un peu différent de ce que je suis en train d'évoquer, mais souvent, dans le Coran est évoquée l'histoire de ces civilisations qui ont grandi, qui ont atteint un certain niveau de progrès, de technologie et d'avancée pour la maîtrise des ressources, pour la maîtrise de la vie sur la terre et de toutes ces choses, pour vivre la vie de ce monde, et qu'ayant atteint un certain niveau, ils sont ayant basé toute leur construction, l'ayant basé sur des choses qui n'étaient pas stables et l'ayant basé sur en cultivant des injustices, ils sont arrivés à un tel point que, au lieu de mener le monde ou au lieu que cette civilisation mène ses peuples et ses gens qui ont mené ces civilisations à un niveau élevé avec le règne de la justice dans ces contrées, non, ils ont cultivé des injustices à l'intérieur qui fait qu'ils sont arrivés et ils ont obtenu un résultat qui est partiellement productif parce qu'une partie des hommes sont lésés et parce que les injustices ont grandi et trop grandi. Et donc elles ne sont plus tolérables. Et donc ces civilisations se sont quasiment autodétruites parce que, pour les raisons que je viens d'évoquer. Bien sûr, il y a une seule civilisation qui est citée dans le Coran et que je rappelle et qui est, elle, celle que nous devons suivre parce qu'elle, elle était basée sur la justice et sur le monde de la foi, c'est la civilisation de Sulayman, de Salomon, alayhi salam. Hein, il a dit, je voudrais un royaume que personne n'a eu. Et c'est vrai, il a eu un royaume extraordinaire, mais un royaume où tout était en ordre et tout était à sa place. Et la particularité de la civilisation Et c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, vous savez, vous devez avoir de la réflexion, de la jugeote lorsque vous lisez le Coran. Pourquoi Dieu, quand il nous parle de Salomon, il nous parle de Balkis, de la reine de Saba, qui elle aussi, elle avait un trône merveilleux, elle maîtrisait des choses merveilleuses aussi. Mais il manquait quelque chose. Il y avait une certaine injustice, il manquait quelque chose dans alors bien sûr, cette injustice, c'est qu'il se prosternait devant le soleil. Bien sûr, avec tout ce que cela comporte, hein, nous l'avons déjà vu, hein, qui fait que la reine de Saba s'est convertie à la foi de Salomon. Tout ceci pour vous dire quoi ? Eh bien, tout ceci pour vous dire qu'une civilisation peut monter, 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 mais si elle n'a pas une structure spirituelle de la foi et qu'elle ne cultive pas la justice à tout prix, eh bien, à un moment donné de son histoire, eh bien, cette civilisation, elle disparaît, tout simplement. Et celle de Salomon, c'est une civilisation qui a été menée au plus haut des degrés et où tout était en ordre parce qu'elle était basée sur la foi et la spiritualité de Salomon, que la paix de Dieu soit sur lui. aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas épargnés par ces histoires qui nous touchent. C'est-à-dire que l'histoire de Salomon et de ses civilisations, nous sommes en train de vivre aujourd'hui une civilisation qui a été, qui a évolué, qui a grandi, qui est arrivée à un certain niveau. La question que nous devons nous poser, avec tout le bien que la technologie, le progrès a apporté à cette humanité, nous nous posons une simple question. Pourquoi les injustices, plus nous avançons et plus les injustices sont grandes et qu'elles oppressent les peuples, et plus elles n'ont jamais été aussi présentes dans le monde dans lequel nous vivons? Eh bien, tout simplement, regardez l'histoire des autres civilisations et vous comprendrez l'histoire de notre civilisation. Pour retrouver notre chemin, pour retrouver cette justice, pour retrouver un monde dans lequel tous les peuples pourront vivre en harmonie, en fraternité et en paix, nous n'avons pas d'autre alternative que de rechercher cette alternative et de ne pas nous reposer sur les acquis que nous avons. Alors, nous avons la conviction profonde, parce que nous le démontrons à travers le livre de Dieu, nous le démontrons à travers toutes les histoires des prophètes, elles sont là, et toutes nos religions les partagent, mais nous n'en avons pas pris conscience et aujourd'hui, nos fois et nos religions sont devenues quelque chose, comment je vais vous dire ça? Une tradition ancienne. Voilà, c'est devenu une tradition ancienne. C'est la foi, mais cette foi que je connais et à laquelle j'adhère, que je sois chrétien, juif ou musulman, eh bien, il lui manque l'essentiel. L'essentiel, c'est son caractère eschatologique, c'est-à-dire qu'est-ce que cette foi m'apporte aujourd'hui pour comprendre le monde dans lequel je vis. Voilà ce qu'il nous manque et ce dont nous avons besoin. Et l'alternative, mes frères et mes sœurs, c'est de revenir tous ensemble à l'histoire des prophètes, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre foi. Si nous avons ne serait-ce que l'once de foi en l'humanité, c'est-à-dire en la grandeur de l'homme, eh bien, nous devons être à la recherche de cette alternative. Cette alternative a été proposée, a été réitérée, a été rappelée à chaque époque sous une forme différente, avec une histoire différente, avec une injustice qui était présente à l'époque de ce prophète, différente, avec, etc., différente, mais qui ne montrait qu'une seule chose, c'est que l'alternative est dans le camp des prophètes qui sont chacun à leur manière une part de ce temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils ont contribué tous, avec leur histoire, à construire ce que nous vivons aujourd'hui et à mettre et à être les serviteurs de cette alternative. Cette alternative qui est bien sûr auprès de Dieu et de revenir par la grâce de Dieu à la grandeur de l'homme et de ce qu'il lui a donné de particulier. Ce qu'il lui a donné de particulier, c'est une science, c'est une lumière vers laquelle nous devons revenir. Parce que, comme nous l'avons dit, la science acquise sur laquelle tous nous nous sommes construits, elle a ses faiblesses. Et construire sa vie, construire sa foi sur l'inscience acquise est dangereux parce qu'elle peut potentiellement nous détourner de la foi, du chemin, de la vérité et de ce qui mène l'homme au plus haut des degrés, c'est-à-dire à la grandeur de l'homme, et surtout ce qui permet de concrétiser l'harmonie, la paix et la fraternité pour tous les peuples du monde. Alors, mes frères et mes sœurs, cette foi, nous devons la rechercher. Cette alternative, nous devons la rechercher. Et lorsque nous découvrons quelque chose, alors nous devons devenir les serviteurs de cette chose. Ça veut dire que nous devons contribuer chacun selon les capacités que nous avons, eh bien, à témoigner et à montrer que le monde dans lequel nous vivons, eh bien, nous pouvons le transformer en quelque chose de merveilleux, en quelque chose de beau, parce qu'il nous a été promis par Dieu, par ses prophètes, et que c'est quelque chose de réel. Et c'est vers cela que nous devons tendre. Mais pour ne pas, pour que nous ne tendions pas vers cela, Iblis fabrique, est en train de fabriquer, en ce moment même, est en train de fabriquer un monde tel que celui vers lequel nous voulons tendre lorsque nous avons la foi et la spiritualité, mais qui est un... Allez, c'est le paradis dont on parle en réalité, ou le Balad al-Amin, eh bien lui, il est en train de fabriquer un Balad al-Amin artificiel, illusoire, qui ne repose que sur la terre, c'est-à-dire qui est amené à disparaître, et qui nous fait croire que c'est celui-là le paradis, pour nous détourner et que nous ne nous intéressions pas au vrai paradis, celui qui mène à l'éternité. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, que nous ne devons pas nous laisser nous détourner et que cette sourate, la caverne, eh bien, elle nous explique à travers toutes ces histoires les choses dans lesquelles, les pièges dans lesquels nous ne devons pas tomber, le cheminement que nous devons avoir pour pouvoir prospérer et pour pouvoir, eh bien, nous en sortir et proposer à nos âmes et aux hommes l'alternative. Alors, non, je ne vais pas revenir parce que peut-être que dans une future analyse, je reviendrai aussi sur les différentes histoires qui sont contées dans, même si nous l'avons déjà fait, parce que comme vous le savez, plus nous avançons et plus il y a des choses qui apparaissent. C'est ça que vous devez vous mettre dans l'esprit et que moi je me mets dans l'esprit avec vous aussi, parce que nous ne devons pas nous limiter à ce qui nous est apparu, mais toujours progresser, et cette progression est importante parce que les choses vont devenir de plus en plus évidentes. Hein, quand Dieu dit que le livre est une évidence, ça veut dire que le livre doit devenir une évidence pour nous, quelque chose de clair. Alors, je reviendrai sûrement sur ces histoires, mais je reprends rapidement pour que vous compreniez, mes frères et mes sœurs, sur l'histoire de Moïse et de Khidr, et ces trois histoires qui sont contées avec Moïse et l'Abd Salih. Hein, lorsque Moïse veut effectuer ce parcours qui dit je ne m'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, etc. Et puis il va rencontrer l'Abd Salih, et puis de là, il va y avoir différentes histoires. Et vous allez voir que, mais moi je ne reviens pas sur ces histoires, mais juste faire sortir quelque chose de ces histoires. C'est l'opération alchimique, si je puis le dire ainsi, mais bon, c'est un mot pour dire que c'est quelque chose qui est un peu spécial de la part de ce grand homme, qu'opère l'Abd Salih, qui est en train d'enseigner à Moïse. Mes frères et mes sœurs, tous les hadiths, d'ailleurs même dans la religion, dans la Bible, même dans les autres religions, ce personnage est évoqué, mais de manière, on ne sait pas qui est-ce. Mais les traits de caractère ressemblent à ce personnage que nous sommes en train d'évoquer, c'est-à-dire Khidr al-Abd Salih. Et tout le monde est d'accord pour dire que ce personnage, beaucoup le définissent comme étant un prophète. Mais un prophète qui n'est pas venu à un temps déterminé de l'histoire. C'est-à-dire que c'est un prophète qui intervient dans tous les temps. Et dans les histoires qui nous sont contées, dans les trois histoires avec Moïse, nous voyons qu'il intervient dans le temps et dans des temps différents. Hein, nous voyons dans la première histoire, c'est un temps qui est très proche. Dans la deuxième histoire, c'est un temps un peu plus éloigné. Dans la troisième histoire, nous avions démontré, avec les preuves scientifiques coraniques, que c'était une histoire qui concernait, avec les deux orphelins, qui concernait la fin des temps. Donc, ce qu'il faut entendre, mes frères et mes sœurs, c'est que Khidr al-Abd Saleh, il est intervenu, il intervient et il interviendra. Et ce qu'il fait et ce qui nous sont contés dans ces histoires, c'est les capacités qu'il a d'interaction et d'agir, même aujourd'hui. Donc, mes frères et mes sœurs, ce personnage, Al-Khidr, il est important parce que là où lui, il intervient, nous n'avons pas besoin d'intervenir. Il le fait pour nous. Je ne sais pas si je suis clair quand je le dis ça, mais vous verrez, je fais exprès d'évoquer cette histoire et que vous la gardiez en mémoire et que vous voyez Khidr comme un personnage qui passe dans tous les temps et qui intervient et qui fait bénéficier ses serviteurs de la miséricorde. Et aujourd'hui, il fait bénéficier ses serviteurs de la miséricorde. Parce que si nous comprenons cela, alors nous pouvons comprendre l'histoire de la fin avec Gog et Magog et surtout avec le Dajjal. Nous pouvons comprendre qui est le Dajjal et en quoi il va intervenir le Dajjal et c'est quoi sa mission à Dajjal et c'est quoi la mission de ceux que l'on nomme Al-Mukhlasin, de ceux que l'on nomme les gens que l'on ne connaît pas, de ceux que l'on nomme les gens qui sont doués de la science du début et de la fin, parce que ce seront eux qui seront l'alternative à son projet, c'est-à-dire le projet du Dajjal, et qui montrera quelle est sa méthode et qui est-il. Alors mes frères et mes sœurs, ayez à la conscience que tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas anodin, n'est pas futile, n'est pas un hasard. Tout suit une ligne directrice. Cette ligne directrice, elle est comptée et elle est dite et maîtrisée par le Coran. Elle est dans le Coran. Si nous arrivons à travers notre foi et notre sincérité, et en reconnaissant les frères et les sœurs qui ont une aptitude particulière pour rendre évidentes les clés qui sont dans le Coran mais qui restent cachées pour nous, eh bien, nous pourrons découvrir ce que nous vivons aujourd'hui, comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, et être, par la permission de Dieu, le remède. Que Dieu nous assiste, mes frères et mes sœurs, qu'il nous donne le courage, la force, qu'il augmente notre foi. Parce que s'il y avait une particularité aux gens de la caverne, lorsqu'il les définit, il dit que ce sont des gens auxquels zidnahum, qu'on leur a donné un plus dans la foi. Et nous avons besoin de ce plus dans la foi, mes frères et mes sœurs, pour notre stabilité. C'est avec ceci que je conclurai. Nous vivons des moments vraiment particuliers de l'histoire. Pourquoi ? Seul Dieu le sait. Pourquoi nous sommes ces gens qui devons vivre ce que nous vivons aujourd'hui ? Mais les événements qui arrivent, si j'aimerais vous donner une note d'espoir, parce que nous devons garder espoir. Mais plus nous avançons, plus les épreuves seront difficiles. Ça, il ne faut pas se le cacher. Hein? Plus ce sera difficile. Mais aussi, et c'est ça la note d'espoir, en contrepartie, si nous restons attachés à notre foi, mais à condition que nous restons attachés à notre foi et que nous ayons un automatisme que quand nous soyons éprouvés, nous nous tournions vers Dieu. Si nous avons cet automatisme-là à chaque fois de nous tourner vers Dieu, alors sachez que plus ce sera difficile et plus la consolation divine sera grande et évidente. Elle vous apparaîtra avec tellement évidente que vous la verrez avec vos yeux de chair. Et elle vous transformera, elle vous donnera de la stabilité, elle vous raffermira, elle vous permettra, comme nous le disons en français, d'affronter vents et marées. Et le vent le plus fort ne pourront même pas vous faire vaciller. Je l'espère, mes frères et mes sœurs, pour vous tous, pour mon âme et pour celle de tous ceux qui m'entourent, de tous ceux qui sont éperdument amoureux de la grandeur de l'homme, de Dieu, des prophètes, des grands hommes, des saints et des héritiers. Que la paix soit sur vous tous. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.